6h30 à Paris, 8h30 en temps universel. 9h30 à Libreville, la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et nous serons à Bamako et à Conakry. Le Mali, deux jours après les attaques djihadistes contre des installations militaires dans la capitale malienne. Alors que le bilan de ces attaques est toujours incertain, des questions se posent sur la sécurisation de la ville. Et la Guinée, après l'annonce de l'arrestation de Claude Pivi, interpellé au Liberia, lui qui avait été condamné à la prison à vie pour son rôle dans les massacres du 28 septembre 2009, les organisations de défense des victimes disent leur soulagement. Dans ce journal également, le Sénégal, des partis d'opposition, réclame un dialogue avec les autorités à propos de l'organisation des élections législatives dans deux mois. Et le Ghana, l'équipe nationale de football, se retrouve sans stade aux normes pour jouer ses matchs à domicile. La CDAO, la communauté ouest-africaine, a dit sa ferme condamnation. La junte au pouvoir à Bamako, elle, n'a pas communiqué hier, au lendemain de la double attaque djihadiste qui a visé des installations militaires de la capitale malienne. En l'occurrence, une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport. Toutes deux prises pour cible par les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda. Tout juste, les autorités maliennes de transition reconnaissent-elles quelques pertes en vies humaines, alors que plusieurs sources sécuritaires et civiles maliennes évoquent quant à elles plusieurs dizaines de morts. Mais au-delà du bilan, la capacité de ces djihadistes à mener des attaques contre des telles cibles au cœur même de Bamako, cela interroge sur la sécurisation de la capitale malienne. David Bachet.
Les assaillants ont fini par être neutralisés. On ignore toujours à quel prix humain. Mais le simple fait que le JNIM ait pu pénétrer dans des sites militaires en plein Bamako et mener des attaques d'une envergure inédite depuis presque 10 ans met en lumière d'incontestables failles. La base militaire 101 à l'aéroport de Bamako, où se trouve également un camp de l'armée de l'air, est censée être l'un des endroits les plus sécurisés du pays. Outre les militaires maliens, des supplétifs de Wagner y sont présents. Niagale Bagayoko, présidente du réseau africain pour le secteur de la sécurité,
pourra certainement être posée, puisque je ne doute pas que des enquêtes seront lancées, y compris au sein de l'armée malienne. La question de potentielle complicité se pose aussi, bien entendu, la question de la stratégie de déploiement actuelle des moyens militaires du Mali, qui, on le sait, sont très concentrés vers le nord du pays. Peut-être que les moyens de l'armée nationales ne permettent pas de sécuriser l'ensemble des sites.
Mardi, lors de la double attaque qui a frappé la capitale, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, recevait une délégation de l'Alliance des États du Sahel, initialement conçue pour combattre de manière collective les groupes terroristes. Dans le communiqué final de la rencontre, aucune mention de ces attaques. Ni la présidence malienne, ni les États du Niger et du Burkina n'ont commenté depuis.
David Bachet, RFI 8h33 à Conakry. Le soulagement en Guinée, c'est donc le sentiment que beaucoup expriment ce matin après l'annonce hier de l'arrestation de Claude Pivi, cet ancien ministre, homme clé du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Massacre pour lequel il a été condamné à la prison à vie. Claude Pivi qui s'était échappé de prison au mois de novembre dernier. Ce matin, l'heure est donc à une certaine satisfaction, notamment chez les associations de défense des victimes. Vous avez pu entendre par exemple sur notre antenne l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. À l'heure actuelle, on ne sait finalement que peu de choses sur les circonstances exactes de l'arrestation de Claude Pivi au Liberia. Mais toutes ces positions exprimées en disent beaucoup sur la réputation de Claude Pivi, homme le plus recherché de Guinée et une figure encore aujourd'hui redoutée. Son portrait avec Florence Maurice.
Sur les photos de son arrestation qui circulent sur les réseaux sociaux, Claude Pivi apparaît affaibli, air hagard et visage amaigri, bien loin de l'image de colosse que l'on garde de lui à Conakry, où le colonel reste un homme redouté pour sa stature, pour l'influence qu'il continue d'exercer au sein de l'armée, pour les pouvoirs mystiques que certains lui prêtent volontiers. Cette légende d'invincibilité est notamment bâtie sur son parcours au sein de l'armée. Claude Pivi est sorti indemne de 3 guerres dans des pays voisins, voisins, Sierra Leone, Liberia et Guinée-Bissau. Une légende que sa disparition après une évasion de prison spectaculaire en novembre dernier a encore renforcée. Mais pour les victimes du massacre du 28 septembre 2009, Claude Pivi, c'est surtout un symbole de leur combat contre l'impunité en Guinée. Inculpé une première fois en 2013 pour son rôle majeur dans cet épisode noir de l'histoire du pays, le colonel avait pourtant conservé des fonctions au plus haut sommet de l'État, reconduit au poste de ministre en charge de la sécurité présidentielle sous Alpha Condé. Et c'est seulement en 2022, après la chute de ce dernier, qu'il avait finalement été écroué.
Florence Maurice est désormais le président du Parlement de transition à Conakry, réclame l'extradition de Claude Pivi pour qu'il réponde de ses actes en Guinée. Dansa Kourouma, qui était notre invité Afrique ce matin, entretien avec Christophe Boisbouvier, à réécouter sur RFI.fr. Un ex-président qui prend la plume, c'est au Gabon, Ali Bongo, renversé par le général Oligui il y a maintenant un peu plus d'un an. Il a fait diffuser hier par ses avocats une lettre dans laquelle il demande la libération de sa femme et de son fils Noureddine, tous les deux actuellement en détention à la prison centrale de Libreville, et qui, d'après l'ancien chef de l'État, sont victimes de violences. Il dit par ailleurs, Ali Bongo, comprendre la volonté des citoyens de souhaiter de nouveaux responsables politiques, et il répète son renoncement définitif à toute ambition politique nationale. Au Sénégal, une centaine de partis d'opposition s'alarment de l'absence de dialogue de la part des autorités, en particulier du ministère de l'Intérieur, à 2 mois maintenant des élections législatives prévues après la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces partis, ils se sont réunis dans une alliance pour la transparence des élections et ils appellent les autorités à organiser au plus vite des concertations pour garantir le consensus et l'organisation d'un scrutin transparent. À Dakar, Léalisa Vestorov.
Parmi les sujets d'inquiétude, l'absence de rencontres programmées pour l'heure avec le ministère de l'Intérieur, alors que les législatives auront lieu dans moins de 2 mois. L'absence d'informations aussi sur les modalités spécifiques d'organisation du scrutin, exemple avec la suppression du système de parrainage citoyen pour cette élection qui n'a fait l'objet d'aucune annonce officielle. Oumar Youm est membre du secrétariat exécutif national de l'APR, signataire de l'Alliance pour la transparence des élections.
Pour que les élections puissent être jugées honnêtes et crédibles, il ne suffit pas simplement de prendre des décrets. Il faut aussi associer les partis politiques, les candidats, les forces vives à une concertation sur les modalités de l'élection. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a absolument rien. Et c'est ça la préoccupation forte de la classe politique à travers cette coalition appelée ATEL, Alliance pour la transparence des élections.
La centaine de signataires appelle donc le ministère de l'Intérieur à convoquer au plus vite un dialogue pour communiquer et se mettre d'accord sur les modalités de ces législatives anticipées dans le respect de la tradition de consensus au Sénégal. Léalisa Vestorov, Dakar, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, la Tunisie, avec la condamnation à 20 mois de prison d'Ayachi Zamel, l'un des 3 candidats de l'élection présidentielle prévue dans 2 semaines, condamné hier en première instance pour des accusations liées justement à des falsifications de parrainage pour sa candidature. D'après ses avocats, il a l'intention de faire appel et il reste candidat au scrutin prévu le 6 octobre. Enfin, avant de retrouver Juan Gomez, direction le Ghana, avec cette première malheureuse pour les Black Stars pour la première fois de son histoire. L'équipe nationale de football ghanéenne se retrouve sans stade aux normes internationales pour ses matchs à domicile. La CAF considère désormais que le stade de Kumasi n'est plus aux normes. À Accra, la correspondance de Victor Cariou.
Surface inégale de terrain, mauvais drainage, couverture de gazon inadéquate, les problèmes du Baba Yara Stadium à Kumasi listés dans le communiqué de la Confédération africaine de football sont très nombreux. Des soucis qui sont loin d'être nouveaux selon Jérôme Otchéré, journaliste spécialisé dans le football ghanéen.
Il y a 2 ans pour le match de qualification à la Coupe du Monde face au Nigeria, il y avait déjà des inquiétudes sur le mauvais état du stade. Un accord provisoire avait alors été difficilement obtenu, mais depuis, ça n'a été que des négociations avec la Confédération africaine. De football.
Une enquête parlementaire a, elle, dénoncé un mauvais usage des fonds dédiés à la rénovation des stades, voire des faits potentiels de corruption. De son côté, Jérôme Otchéré pointe un problème de supervision globale de la part de l'État.
Ce n'est pas comme si nous n'avions pas les infrastructures. Tous les stades ont été rénovés, c'est juste que nous ne les avons pas entretenus correctement. L'État semble n'avoir tout simplement pas la capacité de gérer ces stades. C'est extrêmement décevant.
Pour le journaliste, cela ne fait aucun doute. foot, l'absence de stade pour jouer à domicile aura des conséquences négatives sur les performances des Black Stars, déjà en difficulté pendant ces phases de qualification pour la CAN. Leur prochaine rencontre face au Soudan début octobre pourrait, elle, se dérouler au Togo ou en Côte d'Ivoire, une information encore non dévoilée par la Fédération ghanéenne de football. Victor Cariou, Accra, RFI.
Accra, au Ghana, où il est maintenant 8h40. C'est à vous, Juan Gomez.
Merci.